Radio Stabel.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Anti-Vinicleva,
ça veut dire ennemi à gauche.
Anti-Vinicleva,
ça veut dire ennemi à droite.
Quand les Russes débarquent en Centrafrique et marchent sur les plates-bandes des Français, de plus en plus présents les Russes dans un pays où la France est là bien sûr, mais pas forcément et pas toujours bien perçue. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars et Amélie Perrier, avec de l'eau qui empoisonne au Niger, avec des requins blancs tout près de ce pont gigantesque entre la Chine et Macao, avec un fou furieux qui veut refaire le Titanic à l'identique. 18h50, le cinéma en VO et Eva Bétan, un documentaire exceptionnel de 8h, Les âmes mortes de Wang Bing, 10 ans de documentaire. 18h55, Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau qui nous fera découvrir une île sans plastique. Mais d'abord, nous partons pour la Tunisie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
On a frôlé la grève générale en Tunisie, annulée in extremis avec une augmentation pour les fonctionnaires, d'augmentation de salaire. On va y venir dans une seconde, mais qui ne sera pas forcément suffisante pour faire taire les colères et l'ambiance en ce moment dans ce pays. C'est la bonne occasion pour se demander justement où on en est dans ce pays qui a l'air d'être passé, qu'on présente toujours comme étant passé entre les gouttes après sa révolution. Mais j'allais dire, Sophie Bessis, bonsoir.
Bonsoir.
Ça dépend de quelle goutte on parle. En fait, vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, historienne, essayiste. Vous avez écrit notamment Les valeureuses 5 Tunisiennes dans l'histoire, c'est chez Elisa, c'était publié l'année dernière en 2017. Cette grève générale évitée, une augmentation de 205 à 250 dinars, voilà ce que
à
j'ai
270,
noté,
donc oui.
Voilà, jusqu'à 76 euros à peu près. Une grève qui a été levée par le très puissant syndicat, l'Union Générale des Travailleurs du Tunisie. Est-ce qu'on a acheté la paix sociale?
En partie, oui, bien sûr, parce que la menace de grève générale, en fait, était un petit peu « arrêtez-moi ou je fais un malheur ». Mais la grève générale a une très mauvaise presse en Tunisie, parce qu'en général, les rares grèves générales qui ont eu lieu se sont toujours soldées par des épisodes tout à fait tragiques dans l'histoire. Maintenant, évidemment, cela pose le problème de jusqu'où va aller le syndicat, puisque le syndicat a déposé un préavis de grève générale pour le 22 novembre. Donc, donnant une marge au gouvernement pour savoir si le gouvernement allait mettre en acte les augmentations de salaire et sa promesse de ne pas privatiser les entreprises publiques, puisqu'il y avait deux exigences du syndicat.
Mais vous dites arrêtez-moi si je fais un malheur, est-ce que ça veut dire que c'était du bluff, en fait, ou est-ce que c'est vraiment très sérieux qu'on est prêt à aller, comme vous dites, à la grève, donc à la manifestation, sachant très bien les conséquences que ça peut avoir? Est-ce qu'on en est là?
Ce sont les deux, je crois. Je crois qu'on ne peut pas dissocier, disons, le côté un petit peu chantage du côté, s'il faut y aller, on ira. Mais je pense qu'il faut replacer cette menace de grève générale dans la volonté de l'UGDT depuis plusieurs années de jouer un rôle politique central, de ne pas se cantonner à sa fonction syndicale, mais d'être un acteur politique central dans la vie politique très perturbée de la Tunisie.
Alors,
aujourd'hui.
Allié du chef du gouvernement, ça veut dire que cette alliance qui était bien fragile est terminée?
Non, allié et non allié, parce que depuis plusieurs mois, l'UGTT souffle le chaud et le froid, a demandé à plusieurs reprises le départ du chef du gouvernement, donc c'est placé dans une stratégie de confrontation avec le chef du gouvernement, lequel, vu sa stratégie à lui, a tout intérêt à mettre l'UGTT dans son camp et donc à satisfaire les revendications du syndicat actuel. Mais à quel prix? Parce que d'une certaine façon, le chef du gouvernement est pris en tenaille, c'est un peu l'histoire du marteau et de l'enclume, entre les recommandations ou les demandes des institutions financières internationales et en particulier du Fonds monétaire international et les revendications sociales.
Alors, l'une après l'autre justement. Tiens, parlons du FMI qui avait montré son inquiétude ces dernières semaines, mais qui a l'air plutôt content là récemment, qui parle des chiffres qui sont revenus, d'une économie relativement solide, j'y mets des guillemets parce que ce sont les mots du FMI, un taux de croissance prévu pour 2018 de 2,4. C'est un trompe-l'œil ça? Ou est-ce qu'il se passe vraiment des choses économiquement en Tunisie aujourd'hui?
Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait un trompe-l'œil dans la mesure où effectivement au deuxième trimestre 2018, le produit intérieur brut a augmenté de 2,8%, ce qui ne s'était pas vu depuis un certain temps, mais cette augmentation repose sur des bases extrêmement fragiles tout de même. D'une part, la prévision d'une bonne récolte d'olives et donc d'exportation d'une production tout à fait exceptionnelle d'huile d'olive, qui est un des premiers produits d'exportation de la Tunisie, comme vous le savez, mais ça peut varier d'une année année sur l'autre, hein, c'est pas du tout une base solide. Mmh. Et d'autre part, sur une reprise du tourisme, effectivement, cette année, en nombre d'arrivées et de nuitées, eh bien, on est revenu pratiquement à la situation
pré-révolutionnaire,
mmh, c'est-à-dire le nombre d'arrivées équivaut à peu près à celui de 2010. Mais le tourisme également, cette reprise repose sur des bases extrêmement fragiles. D'une part, ça reste un tourisme très bas de gamme, mmh, donc qui rapporte très peu d'argent à la Tunisie, mmh, en définitive. Et ce tourisme a été dopé par la chute du dinar, puisque maintenant le dinar il faut à peu près plus de 3 dinars pour faire un euro, et donc si vous voulez, les touristes viennent en Tunisie presque gratuitement, pourrait-on dire.
Comme vous dites, super low cost, effectivement, avec peut-être d'ailleurs, oui, un profil du touriste qui a changé. On va y revenir dans un instant,
oui,
je vais vous y emmener justement, oui, je vous emmène à Sousse, qui avait été victime d'attentats en 2015, on s'en, oui, souvient, 38 touristes qui avaient trouvé la mort.
Absolument.
Et c'est là que les choses, évidemment, sont tombées très bas pour le tourisme. Anne Mignard y est retournée, voici ce qu'elle y a trouvé.
Je vous amène à Sousse, à 143 km au sud de Tunis. Cette station balnéaire, surnommée la Perle du Sahel, accueille des milliers de touristes chaque année. La ville a tout pour plaire, un long front de mer où s'alignent de nombreux hôtels et restaurants, une médina, une vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et en port de plaisance. L'avenue principale se nomme, ça n'a rien d'original, l'avenue Bourguiba. Et c'est là que j'ai rencontré Amine, assis devant sa boutique de souvenirs. Il a 40 ans et il vend de la maroquinerie et d'autres produits artisanaux.
Moi, j'ai travaillé avec mon père depuis 25 ans. On avait des touristes de partout dans le monde. Voilà, mon magasin, il était blindé de marchandises, il y avait beaucoup de monde, il y avait toujours une vingtaine, trentaine de touristes dans le magasin, voilà, qui achètent et tout, et maintenant, c'est un peu le désert. Il y a les touristes qui ont un peu peur pour aller dans les souks, dans les magasins, alors ils restent un peu dans les hôtels pour profiter de la plage, c'est tout.
Preuve en est la quantité de poussière qui s'accumule sur les sacs et autres portefeuilles en cuir qu'Amine et sa famille n'enlèvent même plus. Pour tenir, ils ont transformé la moitié de leur magasin en supérette. De l'autre côté de la rue, d'autres ont eu moins de chance. L'hôtel Narawes Boujafar est vide et même abandonné. Plus une seule vitre de cet établissement 4 étoiles n'a subsisté. Seuls de beaux palmiers témoignent d'une gloire passée. Un peu plus loin, à l'entrée de la médina de Sousse, Assia, la patronne d'un autre magasin de souvenirs, se réjouit malgré les difficultés.
Cette année, on peut dire que c'est positif par rapport anciennes années. On a vu un petit peu de français, pas comme avant.
Depuis 7 ans, ces magasins ont tenu grâce à une trésorerie passée, mais aussi avec les touristes algériens et ceux venus des pays d'Europe de l'Est. Direction maintenant Tunis, la capitale et son souk des parfumeurs chez Mimo. Ces essences attiraient avant de nombreux visiteurs.
On a eu beaucoup de difficultés après la révolution. Mais grâce à Dieu, maintenant ça commence, ça bouge. Ça bouge pas vite. C'est vrai, mais ça commence à bouger. Par exemple, cet été, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de Russes, un peu d'Espagnols, un peu des Allemands. Mais on espère de retour les croisières, car dans la médina de Tunis, Karta, Sidi Bou Saïd, quand il y a des croisières, ça bouge beaucoup.
Mais pour que ces croisières reviennent et que les tours opérateurs remettent la Tunisie dans leur catalogue, il a fallu investir, explique Mouna Ben Alima de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie.
La Tunisie a fait énormément d'efforts pour prouver que les hôtels prenaient la sécurité des touristes très très au sérieux. Les hôtels ont démultiplié les investissements en caméras de surveillance, en formation des équipes de la sûreté pour vérifier les bagages, comment détecter quelqu'un qui a un comportement suspect, etc. Donc ça a rassuré.
Et puis c'est malheureux à dire, mais les Français et les Européens en général se sont aperçus que les terroristes pouvaient aussi bien frapper à Tunis et Sousse qu'à Paris, Nice et Berlin. Enfin, pour gagner d'autres marchés, ces professionnels ont choisi de diversifier leurs offres. Le tourisme en Tunisie n'est plus seulement balnéaire, il est aussi culturel, culinaire et médical.
Un reportage signé Anne Mignard en Tunisie. Sophie Bessis, on a bien entendu dans ce reportage, effectivement, le tourisme a changé de visage, en fait, et un tourisme qui change de visage, comme vous le disiez, ne rapporte pas forcément d'argent à l'économie locale. Alors en même temps, il faut bien commencer quelque part.
Vous disiez que c'est un tourisme low cost, ouais. Et le tourisme tunisien est aujourd'hui encore plus low cost, ouais, qu'il ne l'avait été il y a de nombreuses années, parce que ça avait été un choix stratégique de la, ouais, Tunisie. Hein. Tourisme balnéaire, plage, forfait, les tours opérateurs, ouais, gagnent, ouais, davantage que les Tunisiens, mmh, dans cette affaire. Disons que le seul avantage de ce type de tourisme aujourd'hui, c'est que il maintient l'emploi dans le secteur. Ouais, il maintient l'emploi dans le secteur, ça c'est extrêmement important, ouais, vu le taux de chômage de la Tunisie qui est officiellement évalué à 15% de la population d'âge actif, ce qui est quand même, qui reste extrêmement important. Effectivement, le tourisme venant des pays de l'Est, Russie, ouais, Ukraine, est un tourisme qui ne dépense pas. Le tourisme algérien est important.
Il a toujours été.
Plus d'un million. Mm-hmm. Plus d'un million de touristes, puisque vous savez que la Tunisie est le seul pays à peu près où les Algériens peuvent se rendre sans visa. Mm-hmm. Et donc, c'est un tourisme un petit peu atypique par rapport au tourisme hôtelier. Et le reportage parlait du tourisme culturel. Il est encore dans les limbes. Il se développe un tout petit peu, mais enfin, c'est pas encore ça.
Vous disiez que, effectivement, le tourisme au moins maintient l'emploi, et maintenir l'emploi, effectivement, ça veut dire aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, éviter l'embrasement au bout du compte, éviter aussi un embrasement social. Est-ce que c'est pour éviter cet embrasement que l'état d'urgence a été maintenu, par exemple, assez récemment? Parce que théoriquement, ça interdit les gros rassemblements, etc. Est-ce que c'est aussi pour contenir le pays socialement ou pas?
C'est possible, mais enfin, je pense que ce n'est pas la raison principale pour laquelle cet état d'urgence a été maintenu. Il est évident que cet embrasement social, il faut bien comprendre qu'il dépassera le simple cadre de la revendication syndicale. La revendication syndicale, c'est une partie de la frustration sociale.
C'est ce qui embrase, mais après il y a tout le reste.
Mais
c'est
surtout les populations déshéritées du centre, des banlieues populaires, de la capitale et des grandes villes, qui en fait ont cru, disons qu'il y a eu un grand malentendu après la Révolution, qui ont cru que la Révolution, c'était un mieux-être immédiat. C'était une augmentation du niveau de vie, c'était du travail pour tous. Et bien évidemment, la Révolution n'a pas apporté ce qui avait été considéré comme une promesse révolutionnaire. Et donc la frustration est extrêmement importante dans ces couches sociales totalement marginalisées, dans cette jeunesse marginalisée, dont vous savez qu'une partie aspire à une chose, à l'émigration.
À partir.
Et puis, évidemment, la situation politique n'arrange pas les choses.
Les élections municipales en mai dernier avaient péché par la participation, là-dessus on est bien d'accord, mais avaient fait aussi émerger des listes indépendantes qui avaient même été extrêmement hautes par rapport aux grands partis traditionnels. Qu'est-ce que c'est devenu ce courant-là, la sorte de régénération de la vie politique? Est-ce que ça a vraiment porté ses fruits? Est-ce que ça les portera surtout, puisqu'il doit y avoir des élections à la fin de 2019,
hein? Je pense que effectivement, il y avait un certain nombre, parce que vous savez, il y avait également des listes faussement indépendantes. Mmh. Hein, donc, mais il y a eu effectivement quelques listes réellement indépendantes qui essayent, chacune dans leur municipalité, de nettoyer les écuries d'Augias, ce qui est un très vaste programme. Et je pense que dans ces listes indépendantes, dans cette nouvelle gestion municipale, eh bien, naîtra en partie la classe politique de demain, c'est une excellente chose. Mais pas celle de demain matin, celle d'après-demain, parce qu'il faut attendre qu'elle émerge.
Donc, ça veut dire qu'on ne le verra pas en 2019, aux élections de 2019, par exemple, c'est encore trop tôt.
Je ne pense pas, et je pense que les élections de 2019, dont on ne sait pas trop comment elles vont tourner pour l'instant, disons que la course aux élections se fera au sein de la classe politique classique, à part quelques figures indépendantes. Mais je crains que cela ne se fasse au sein de la classe politique actuelle. Et la classe politique actuelle montre aujourd'hui son incapacité à prendre à bras-le-corps les réels problèmes de la Tunisie, parce qu'elle est enferrée dans des questions d'ego, dans des questions...
des guerres intestines, le fils de
Sepsis,
le chef du gouvernement, tout
assez
ça.
Assez sordide, il faut bien le dire. Et une grande partie de la population est absolument écœurée parce qu'il se... par ce qu'il se passe sur le plan politique aujourd'hui, et cela ne remet pas en honneur la politique en Tunisie, et c'est tout à fait triste.
Mais du coup, Sophie Bessis, qui tirera les marrons du feu si en 2019, au moment des élections, au milieu de ce que vous décrivez là, en effet ?
Ce que l'on peut dire, c'est que les élections municipales, vous avez eu tout à fait raison d'insister sur l'émergence de listes indépendantes, mais enfin, grosso modo, tout de même,
personne
c'est le parti Narva qui a gagné, qui a gagné ces élections dans la mesure où le parti Nidetounes est en état de mort clinique. Qu'il n'existe plus. En réalité, il a été autodétruit, peut-on dire, par le népotisme et le familialisme.
Effectivement, Enarda est toujours là. La rupture a eu lieu là, d'ailleurs, avec le pouvoir en place, avec le président Essebsi.
Avec le président Essebsi,
c'est vrai.
Parce que là, vous avez quand même en Tunisie aujourd'hui un affrontement entre le chef du gouvernement d'une part et le président de la République.
Qui a 91 ans, qui est un très vieux monsieur de 91 ans par ailleurs, Essebsi, ce qui dit aussi des
choses.
Voilà, 92. Donc ça veut dire que c'est Enarda qui sortira les marrons du feu, selon vous, en tout cas, en 2019.
Écoutez, c'est une des probabilités. Hein. On ne peut pas tirer des plans sur la comète. C'est une des probabilités. Maintenant, Enarda a besoin de respectabilité sur le plan politique et n'était pas favorable à une rupture avec le président de la République. Hein. C'est le président de la République qui l'a accéléré, cette rupture. Est-ce une rupture véritable? Est-ce une rupture de long terme? Est-ce une rupture définitive? Ou est-ce que c'est une rupture provisoire? Et on peut estimer que si le parti Ennahda aujourd'hui soutient le chef du gouvernement, c'est également par réaction à cette volonté de rupture du président de la République.
C'est long, hein, une transition démocratique, Sophie Bessis.
C'est toujours très long. Vous savez, au regard de l'histoire, 8 ans, ça fait pas beaucoup.
C'est sûr. Alors, l'impatience des Tunisiens, on peut la comprendre.
Mais,
vous avez raison. Le regard
c'est
de l'histoire,
c'est un apprentissage douloureux, difficile, mais il ne faut pas être exclusivement négatif, même si la situation actuelle est extrêmement préoccupante.
Et merci de finir sur cette note positive, Sophie Bessis. Merci beaucoup.
Merci
de votre passage
vous.
Dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Centrafrique avec les Russes qui marchent sur les plates-bandes des Français sous les radars. Et Amélie Perrier avec une vieille histoire d'eau fluor au Niger qui rejaillit aujourd'hui avec une vieille épave, et la plus vieille épave du monde même, et avec un homme qui s'est mis en tête de refaire le Titanic sans le naufrage, on imagine. Eva Bétan et Cyril Sauvageau pour fermer le banc aussi. Eva, le cinéma en VO avec Wang Bing pour un documentaire incroyable.
Oui, Les âmes mortes, il fait un travail sur la Chine qui est considérable, et là il a recueilli la parole des survivants des camps de rééducation de l'ère maoïste.
On écoutera ça dans un instant. Cyril Sauvageau, vous nous emmenez sur l'île de Man.
Oui, puisqu'aujourd'hui, le Parlement européen a voté l'interdiction du plastique, d'objets en plastique jetable, et nous verrons que la lutte contre le plastique est jusqu'ici surtout le fait d'initiatives locales et citoyennes.
Allez, le tour de la planète continue. Il passe par Londres. Tiens, regardez Big Ben par le hublot. Voici Joe Strummer, Keys to the Heart.
Lord, I'm looking at the judge and the jury who saw the big blue policeman with a little black book. He wrote it down while he didn't look. Said, ah.
Joe Strummer, les clés de votre cœur, les clés de votre cœur. Eh ben, je demande à voir, tiens. Allez.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Je donne pas ça à n'importe qui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amélie Perrier, sous les radars. Quand l'eau, cette denrée si rare au Sahel, devient un poison pour le Niger.
Oui, le pays vient de s'engager à indemniser des centaines d'habitants de la ville de Tibiri dans le sud, il y a une vingtaine d'années. Alors, enfant, ces habitants étaient victimes de malformations. Les jambes et le dos arqués, des têtes volumineuses, des dents rougeâtres. Tout ça à cause de l'eau distribuée dans la zone, de l'eau dans laquelle le taux de fluor était bien trop élevé.
Cela fait 20 ans que nous attendons. Regardez comment je marche avec des béquilles.
Voilà ce témoignage d'une victime recueillie par RFI. L'affaire traîne depuis longtemps. La justice a tranché il y a 3 ans. Aujourd'hui, le gouvernement débloque cette enveloppe, l'équivalent de 3 millions d'euros. Depuis, la distribution d'eau a été arrêtée. Des forages privés ont vu le jour de manière plus ou moins anarchique. Des forages où l'on trouve, là encore, des teneurs en fluor dépassant les normes, s'inquiètent les responsables locaux. La peur de l'eau, tout autre chose. Est-ce que vous achèteriez, Fabienne, un billet pour le Titanic?
C'est-à-dire que non, enfin pas trop, moyen, ça dépend lequel.
Non, bon, bah pas pour aller voir le film en tout cas, non. Dont on entend la bande-annonce. C'était un rêve pour moi de diffuser du Céline Dion dans cette chronique, c'est fait.
Quand vous diffuserez du Véronique Sanson,
on en reparlera. Voilà. Là, je vous parle du bateau, le Titanic, parce qu'un riche homme d'affaires australien s'est lancé dans le rêve fou, ou le cauchemar, c'est selon, de construire une réplique du bateau de croisière. Il vient d'annoncer que sa compagnie allait installer en Europe, à Paris peut-être, une base, oui, pour son projet. Il s'appelle Clive Palmer. Il veut pouvoir embarquer 2435 passagers et surtout des moyens de sauvetage modernes.
Ah bah, j'allais dire, oui, parce que tout ça pour un naufrage.
Mais oui, souvenez-vous, en 1912...
Enfin, souvenez-vous, attendez.
Non, bon, presque. Il y avait qu'un gilet de sauvetage pour deux. 1500 personnes avaient péri dans le naufrage. Alors là, on ne sait pas trop si Palmer bluffe ou pas. Son projet de Titanic 2 a déjà été plusieurs fois repoussé ces dernières années. En tout cas, sa compagnie se vante déjà d'avoir reçu des milliers de demandes de réservation et même plusieurs offres au-delà du million de dollars pour être du premier voyage.
Eh ben, dites-moi, un autre bateau coulé pour une découverte archéologique exceptionnelle.
Oui, là, c'est la plus vieille épave au monde qui vient d'être trouvée au fond de la mer Noire. Un bateau de commerce grec. Il date de l'an 400 avant Jésus-Christ. Il a été découvert à 2 km de profondeur par une expédition scientifique anglo-bulgare.
Alors,
on entend l'un des archéologues. Il dit il y a des bateaux qui n'ont jamais été vus en dehors de leur représentation en peinture murale ou dans des livres. Là, c'est la première fois qu'on les voit en vrai, dit-il sur France 24. Et là, le second chercheur précise, on a un vaisseau complet avec le mât encore debout, les gouvernails en place. C'est une découverte incroyable. Alors, les archéologues ont sondé pendant 3 ans les fonds de la mer Noire au large de la Bulgarie avec un sonar et puis un petit sous-marin télécommandé équipé de caméras. En tout, une 60aine d'épaves ont été localisées de l'Antiquité au XVIIe siècle. Mais si la plus ancienne est dans un état aussi incroyable, c'est parce qu'elle a été retrouvée à une profondeur où l'eau est dépourvue d'oxygène et conserve les matières organiques pendant des milliers d'années.
Et puis Amélie, hier matin dans les journaux, on a beaucoup entendu parler de cette énorme pont que la Chine a inauguré, le plus long pont maritime au monde.
55 kilomètres entre Hong Kong, Macao, le port chinois de Zhuhai. Les médias n'en finissent plus de vanter la grandeur d'un tel ouvrage, les retombées économiques pour toute la région. Aujourd'hui, une télé chinoise a même pris de court ce qui mettra en cause l'impact écologique du pont. 420 000 tonnes d'acier et plus d'un million de mètres cubes de béton quand même. Écoutez ce qu'elle diffuse. Ah, ce sont des images prises par des bateaux de patrouille de la sécurité maritime du Guangdong. On y voit au moins 5 dauphins d'une espèce très rare, nous dit le média chinois, des dauphins blancs. China News nous dit que la Chine a eu pour priorité pendant la construction de les protéger.
Ah bah oui, il a mis des panneaux. Attention au coulage d'un million de tonnes de béton.
Exactement.
Amélie Perrier, vous avez flipper sur la 2. Merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
c'est en Centrafrique que nous amène l'escale reportage ce soir dans Un jour dans le monde. La Centrafrique qui devient le terrain de jeu des Russes, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait du goût de la France, qui a beaucoup de wagons à raccrocher, c'est vrai, avec les Centrafricains. Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs, sera en Centrafrique les 1er et 2 novembre prochains. Bonsoir à vous, Saber Gendoubi.
Bonsoir Fabienne.
Les Russes avancent des pions, donc, comme ils le font beaucoup en Afrique et comme le font aussi les Chinois. 5 officiers russes et 170 instructeurs sont déjà là depuis un moment. Et l'objectif, au final, Saber, ce sont évidemment les réserves minières du pays.
Berengo, à 80 km de Bangui, l'ancien palais impérial de Jean Bedel Bokassa est devenu aujourd'hui un terrain d'entraînement des forces armées centrafricaines, les FACA. Ce matin, quelques 400 militaires centrafricains sont alignés en randonnion. Uniforme impeccable, tout juste sorti d'une formation de 3 semaines. Ils font une démonstration devant le président Touadéra. Ici, ce sont des instructeurs russes qui forment les militaires centrafricains.
Matibinisleva, ça veut dire « ennemi à gauche ». Matibinisleva, ça veut dire « ennemi à droite ».
Une formation des FACA qui fait grincer des dents, car ici, c'est l'Union européenne, à travers sa mission d'entraînement qui est en charge de la reconstruction des forces armées. Si l'UE n'est pas contre les accords bilatéraux, elle souhaiterait qu'ils se fassent en concertation et en transparence. Un avis partagé par le chef de l'ONU au Centrafrique, Parfait Onanga Anyanga.
Ils ont évidemment un apport bilatéral apprécié par les autorités centrafricaines. Nous avons un devoir de coordonner entre tous les partenaires. Je crois que c'est essentiel que ce travail se fasse davantage dans une transparence plus grande et dans une coordination de tous les acteurs. Et nous espérons que ces contributions vont renforcer l'action de la communauté internationale au service de la paix en République centrafricaine.
Retour en arrière. Fin 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise Moscou à livrer des armes à la Centrafrique. Les autorités russes obtiennent alors une levée temporaire de l'embargo sur les armes imposées au pays depuis le début de la crise en 2013. Janvier 2018, la première cargaison est livrée, des soldats russes intègrent la garde présidentielle. D'un côté, la communauté internationale marche sur des œufs, tandis que la diplomatie française s'enrage. De l'autre, la presse centrafricaine applaudit, les Russes accélèrent le redéploiement des FACA dans le pays. Les députés sont ravis, comme Serge Bengba, député de Bangassou dans le sud du pays.
Спасибо хорошо, ça veut dire merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup parce qu'aujourd'hui les FACA sont à Bangassou. Et vous savez que depuis le début de la crise, c'était la préoccupation des populations de Bangassou. Et donc il était important pour moi de dire « Spasiba Karacho ». Je le dis aussi à la Fédération de Russie, parce que c'est eux qui ont donné les moyens aux FACA pour aujourd'hui arriver à Bangassou et protéger la population.
À la fin du mois d'août, pendant que les gouvernements russes et centrafricains signent un nouvel accord de défense, un accord dont les termes sont restés très secrets, à Khartoum, au Soudan, les Russes négocient avec les groupes armés centrafricains. Objectif, tenter d'avoir un accord de paix en Centrafrique. Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI.
Alors pourquoi Khartoum? Parce que Moscou et le gouvernement soudanais ont des relations déjà anciennes sur le plan sécuritaire et économique, et que le gouvernement soudanais a donc mis à sa disposition de Moscou son carnet d'adresses en ce qui concerne les groupes armés centrafricains avec lesquels il entretient des relations déjà depuis longtemps.
Les dictateurs, on vous attend. En avant, marche.
Seulement voilà, l'objectif premier et avoué de la Russie, c'est co-exploiter l'or et le diamant qui se trouvent dans le nord du pays. Les Russes ont déjà construit des bases dans ces zones, à Ouada et à Bria. Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI.
L'idée, c'est pour la Russie et de faire un accord de paix qui permettent une co-exploitation de ces ressources naturelles entre eux-mêmes, les groupes armés et le gouvernement centrafricain.
Et oui, 80% du territoire centrafricain est possédé par les groupes armés, une manière pour les Russes de se payer pour services rendus, car l'État centrafricain n'a pas de liquidité. Les groupes politico-militaires les reçoivent, mais se réservent, selon Djamil Babanani, chargé de mission du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique.
aucun contrat n'a été signé entre les Russes et les groupes armés en Centrafrique. Bien sûr qu'il y a des négociations sur plusieurs points qu'ils nous ont posés, mais nous sommes toujours sceptiques. On n'a rien à signer avec les Russes parce que déjà, on ne sait même pas dans quel but ils sont en Centrafrique parce qu'officiellement, on ne sait pas.
Toi le colonisateur, je te hais.
En parallèle, la Russie a un autre but, conquérir les cœurs et les esprits. Humanitaire, santé, tournoi de foot, concours pour enfants avec promesse de vacances, destination la Crimée.
Tout ce qu'on veut maintenant, c'est fermer nos portes à ton pays, la France. Alors pourquoi est-ce que mon président décide de nous amener les Russes pour nous délivrer de la main des bonnes armées? Toi, ça te semble insupportable, tu veux t'en aller.
Et pour la soutenir dans son œuvre, la presse centrafricaine est au rendez-vous.
Donc, on a transposé la guerre de la Syrie en République centrafricaine par les puissances interposées. Les Russes n'ont fait que réactiver leur relation de coopération avec la République centrafricaine.
Finalement, les Centrafricains acceptent ces nouveaux partenaires avec beaucoup de philosophie. Philosophie résumée par un député qui a souhaité rester anonyme. On a essayé les Sud-Africains, les Israéliens, et ça n'a pas marché. Sont venus les Américains, puis ils sont partis. Les Français, ils nous ont abandonnés. Alors les Russes, moi je dis pourquoi pas.
Saber Gendoubi sur France Inter. Et ben voilà qui nous rajeunit pas, les Everly Brothers.
Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love.
Allez les Everly Brothers, bye bye love sur France Inter. Voici Eva Béton.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is
Un jour dans le monde.
Action.
Eva, c'est un film exceptionnel au sens propre du terme que vous avez envie de nous présenter aujourd'hui. Il dure 8h40. C'est un documentaire qui parle des victimes du maoïsme. Le film s'appelle Les âmes mortes, signé par le réalisateur Wang Bing. Vous allez nous raconter dans quelles conditions ça a été fait et ça a été tourné. Bande annonce d'abord. Un tournage déjà sur plus de 10 ans. Incroyable.
Oui, sur plus de 10 ans, 600 heures de rush. Alors, c'est pas plus de 10 ans à temps plein, parce qu'il a fait d'autres films en même temps. Ça s'inscrit dans ce travail qu'on a appelé travail au regard de l'histoire, travail au regard de les mémoires, qui a été fait dans différents pays quand il y a eu des génocides, des tragédies. Ça a été fait au Cambodge, ça a été fait par Itipan. Lui, il le fait en Chine, Wang Bin. Il va s'intéresser à quoi? Aux purges de la période maoïste. Il le fait en Chine tout seul, avec très peu de moyens, dans l'indifférence générale, avec aucune aide. Il a traversé toute la Chine pour trouver les survivants. C'est entre 1957 et 1961, il y a eu des purges, ceux qui étaient considérés comme droitiers, c'est-à-dire réactionnaires, dans la Chine de Mao, ont été envoyés dans des camps de rééducation. Il s'était intéressé à un camp en particulier, le camp de Jiabangu, qui est aux portes du désert, où il y a eu seulement 500 survivants sur 3200 internés entre 1957 et 1961. Il y a une sorte de rage chez lui, d'urgence d'attraper la parole, et ça on le sent à chaque image. Nous voyons des gens qui sont aujourd'hui très âgés, et il raconte des choses terribles, des conditions de vie inhumaines. Quand même, leitmotiv, la faim, beaucoup d'entre eux sont morts de faim, et à quelle extrémité peut vous conduire la faim? Mais ils disent aussi, on ne sait pas pourquoi on a été arrêté. Moi, j'ai rien fait d'illégal. Et c'est tout ça qu'il fait sentir. Il va contre l'oubli, parce qu'il faut voir que dans la Chine d'aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de stèle pour ces gens-là. Il est retourné sur les yeux de Jiabangu, regardez ce qu'il a vu.
Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est surtout quand je me suis rendue sur les sites de l'ancien camp de Jiabangu et que j'étais face dans cet endroit complètement désertique, face à ces ossements qu'on voit à l'air libre dispersés dans le désert de Gobi et qui sont là au vent comme ça depuis des années. À la vue de ces restes d'individus, on voit même des affaires qui leur ont appartenu. Tout de suite, je me posais la question, mais qui étaient ces gens? Quelle vie ils ont menée dans cet endroit? Et j'ai eu vraiment un désir profond d'en savoir plus. Les camps de Jiabangu en Chine, s'ils ont surgi à partir de 49 de la Chine nouvelle jusqu'en 78 sur une période de 30 ans de l'histoire, sont à un certain niveau représentatifs de cette période de l'histoire de Chine.
Alors on entend les gens parler, ils racontent ce qu'ils ont vécu, ils racontent notamment la faim. Et c'est une chose qui revient plusieurs fois, la faim, la faim.
C'est déjà quelque chose qui faisait partie de mon enfance. Je sais que quand j'étais petit, je sentais bien à quel point au sein de ma famille, de la part de mes parents, il y avait toujours la question du manque de nourriture qui revenait au quotidien dans les propos, dans nos échanges. Bien sûr, aujourd'hui, le manque de nourriture n'est plus réel maintenant en Chine, mais quand même, c'est quelque chose qui a perduré jusqu'en
85.
Alors, on avait vu le film d'un coup au Festival de Cannes. Là, il sort en trois séances. Il est découpé en trois morceaux.
Vous l'avez vu d'un coup? Vous avez vu les 8h40 d'un coup? Ça s'appelle Les âmes mortes de Wang Bing et Eva Béton. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, c'est une étape importante dans la lutte contre les déchets plastiques. Le Parlement européen, on en parlait dans les journaux, s'est prononcé en faveur de l'interdiction d'objets plastiques à usage unique, comme les pailles, les assiettes, les couverts, les cotons-tiges. L'Europe se décide donc enfin à agir. Il était temps parce que juste ici, quelques initiatives seulement et très localisées avaient vu le jour.
Et l'histoire retiendra peut-être le nom de cette petite île des Cyclades, l'île grecque de Sikinos, au large du Pirée, 300 habitants, 40 kilomètres carrés de superficie, un caillou aux maisons blanchies à la chaux, en pleine mer Égée, Sikinos, première île à bannir totalement les pailles en plastique. La municipalité a décidé seule, dans son coin, cette interdiction. En juin dernier, des pailles biodégradables ont été fournies en remplacement par une fondation environnementale qui financera le projet jusqu'en 2019. Vu la taille de l'île, sa population, tout ça reste évidemment très modeste et surtout symbolique, mais l'opération médiatique était réussie. Elle a permis de mettre en lumière cette problématique, d'attirer l'attention sur l'une des principales sources de déchets en mer Égée, où le tourisme de masse laisse chaque année des stigmates bien visibles sur les plages de Paros, Mykonos ou Santorin.
Alors, autre projet, Cyril, à plus grande échelle, celui de l'île de Man, entre l'Angleterre et l'Irlande.
L'île de Man, bien connue par ailleurs pour être l'un des paradis fiscaux, montré du doigt dans les Paradise Papers. L'île de Man, donc, a lancé il y a déjà plus de 10 ans la bataille contre les déchets plastiques. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui s'en sont saisis, une vraie mobilisation citoyenne lancée au départ par une poignée de militants écolos pour nettoyer les plages et le littoral. Plus de 10 000 volontaires au fil des années, près de 15% de la population impliquée au fil du temps dans ce ramassage des déchets, y compris les écoliers qui viennent avec leur classe. Résultat, les plages sont aujourd'hui considérées comme les plus propres en Europe, alors que l'île se trouve en pleine mer d'Irlande, dans une zone très industrialisée. Depuis, les autorités locales ont mis les bouchées doubles et obtenu de l'UNESCO le statut de réserve de biosphère. Les zones protégées couvrent la moitié du littoral désormais et les pêcheurs de l'île en ont aussi profité en étant impliqués sur la préservation de la biosphère. Un modèle vertueux donc, pris en exemple aujourd'hui par la Grande-Bretagne qui veut légiférer à son tour sur l'interdiction de ces déchets plastiques.
Donc Cyril, voilà quelques exemples positifs et c'est tant mieux, mais qui ne font que souligner aussi l'ampleur de ce qui reste à faire.
Mais si on veut se limiter uniquement à la pollution marine par le plastique, déjà les chiffres donnent le tournis. 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans. C'est la moitié des déchets marins. Aujourd'hui, on estime que 150 millions de tonnes de déchets plastiques flottent dans les océans. 150 millions de tonnes. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. 1400 espèces marines sont directement menacées. Des requins, des baleines, des tortues, des oiseaux. Chaque année, le plastique tue 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux. Dernier chiffre, sur l'ensemble du globe, seuls 13% des zones océaniques sont encore vierge, la présence de l'homme est partout, autant dire qu'il faudra bien plus que quelques initiatives locales et bien plus que la bonne volonté des citoyens pour venir à bout de ce fléau.
Cyril Sauvageau dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve demain, nous on reste ensemble évidemment pour le téléphone sonne et puis le journal de Pierre Veil, c'est la suite du 18-20. Merci de nous écouter et bonne soirée avec nous.